Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Nous prenons notre première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Matthieu 10, nous lisons à partir du verset 34. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Il y a des notions ou des termes sur la terre des vivants qui sont difficilement acceptés par la chair. Lorsque dans le monde on parle de défaite, lorsque dans le monde on parle de perdre, c'est quelque chose qui est reçu de façon négative. Quel est l'homme sur la terre qui aime perdre? Quel est l'homme sur la terre qui aime être dans la défaite? Humainement parlant, de façon charnelle, il n'en existe pas. Tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il construit, c'est pour être gagnant. Lorsqu'il épargne de l'argent, c'est pour être gagnant. Lorsqu'il a le choix, quelquefois, dans différentes propositions qu'on peut lui faire sur un point de vue professionnel, il cherchera là où il sera gagnant. Si ce n'est pas financièrement, ça sera matériellement, mais il va chercher à aller, à se retrouver là où il sait qu'il sera gagnant. L'homme ne veut pas être perdant, parce que dans sa nature, c'est quelque chose qu'il rejette naturellement. Or, perdre, selon le Seigneur, selon le langage de Dieu, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est sûr que c'est contradictoire à la volonté de la chair. C'est pourquoi dans Galates 5, on nous explique que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés. Ce que la chair aime faire est contraire à ce que l'esprit veut. La chair va te dire que tu dois être gagnant. Tu as travaillé pour ça. Tu as obtenu des diplômes pour ça. Tu t'es battu pour être là où tu es arrivé. Tu dois gagner. La chair te dit ça. Et tu luttes et tu combats pour ça. Mais l'esprit te dit, accepte de tout perdre. Tout ce don qui peut représenter une richesse pour toi, qui peut représenter un avantage pour toi, qui peut t'ouvrir certaines portes dans la vie, la logique de la Bible te dit, accepte de renoncer à tout ça. Et c'est de là que le combat commence. Parce que ta chair veut gagner, mais l'esprit te dit, accepte de perdre. Parce que selon la logique humaine, perdre c'est rester à la case départ. Perdre c'est retourner en arrière. Perdre c'est perdre du temps. C'est finalement ne pas atteindre nos objectifs. Or avec le Seigneur, accepter de perdre, c'est entrer dans son plan. Or, lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, la défaite n'existe pas, parce que Dieu n'échoue jamais. Humainement parlant, il y a des événements que nous allons vivre comme des défaites. Mais pour le Seigneur, ce sont des victoires. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu est si grande que même les princes de ce monde, que les grands de ce monde ne peuvent pas la saisir. Parce que s'ils avaient saisi la sagesse de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Si Satan avait pu comprendre qu'en crucifiant le Fils de Dieu, cela ouvrait la porte au salut pour toute l'humanité, il ne l'aurait pas fait. Apparemment, Jésus-Christ sur la croix était dans la défaite. Il perdait la bataille pour laquelle il était venu. Même certains de ses disciples, certains qui avaient entendu sa parole, avaient oublié toutes les promesses annoncées, au tel point que lorsque Jésus-Christ est mort, ils étaient dans la tristesse. Ils marchaient et ils avaient oublié que le Seigneur allait ressusciter. Ils pensaient que celui qui viendrait les délivrer des Romains viendrait avec une grande armée. Alors voir que celui-ci, qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, voilà, ça fait plus de 3 jours maintenant qu'il est dans le tombeau, c'était pour eux une défaite. Nous avons perdu la guerre, la bataille qu'on devait remporter, celle qui avait été annoncée depuis des siècles. Voilà qu'on attendait et celui qui devait nous délivrer est déjà mort. Parce que apparemment, physiquement, tel que le monde le voyait, c'était une défaite de voir Jésus-Christ sur la croix. Mais cette défaite-là apparente, c'est elle qui nous a fait entrer dans la victoire, dans l'espérance de la vie éternelle, dans l'espérance du salut, dans la joie de connaître la véritable paix selon Dieu et non pas selon le monde. Mais apparemment, c'était une défaite. Bien-aimés, comprenons que vivre avec le Seigneur, c'est vivre dans la logique de la Bible, c'est vivre dans la logique du Saint-Esprit. Et la logique biblique nous invite à comprendre que la notion de perte, que la notion de défaite, ne l'est que apparemment selon le plan des hommes, mais selon le Seigneur, c'est la porte qui nous emmène vers la victoire, qui nous emmène vers la réussite. Le Seigneur, dans ce passage-là, est très clair. Celui qui cherche à conserver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans les versets qui précèdent, le Seigneur explique qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Et c'est une réalité, malheureusement, que beaucoup de chrétiens refusent de vivre. La séparation et la division qu'il peut y avoir avec certaines personnes que nous aimons est quelque chose qui est difficilement acceptable, que la chair n'accepte pas. Nous avons grandi avec des habitudes, nous avons grandi avec certaines amitiés, avec un amour charnel. Et ces réalités-là, ces sentiments qui sont là, nous empêchent quelquefois de nous détacher de certaines personnes. Et le Seigneur est clair, il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. La paix dont le Seigneur parle, l'épée dont le Seigneur parle plutôt, n'est pas une division qui est liée au fait que Dieu n'aime pas les humains, qui est liée au fait que Dieu n'aimerait pas que les hommes soient unis. Mais le Seigneur parle d'une épée qui est automatique dès lors que nous choisissons de marcher selon la vérité. Car la vérité de Dieu ne peut pas cohabiter avec la vérité du monde. Alors, ayant accepté le Seigneur dans notre vie, nous sommes désormais habités par l'Esprit de Dieu qui a soif de vivre les œuvres de Dieu et de manifester la vérité selon Dieu. Mais cette vérité-là, le monde ne l'accepte pas. Et puisque nous vivons selon cette vérité, ça va créer une division avec les gens qui n'acceptent pas. Ce n'est pas que le Seigneur veut qu'on se divise pour le plaisir de se diviser, mais il explique que cette épée-là, elle vient à cause de la vérité que nous avons choisie, à cause de la vérité que nous servons aujourd'hui. Ceux qui ne l'acceptent pas s'éloigneront d'eux-mêmes. Il y a une distance qui va se créer. C'est de cette épée dont le Seigneur est venu faire. Mais pour vivre cela, il faut accepter de mourir par rapport à tout ce que nous pouvons considérer comme des amitiés, tout ce que nous pouvons considérer autrefois comme des vraies relations. Nous devons accepter de mourir par rapport à cette idée de la vie qu'on avait autrefois. Et agissant ainsi, réfléchissant ainsi, c'est comme si on perdait quelque chose. C'est comme si on perdait nos parents. C'est comme si on perdait les membres de nos familles. C'est comme si on perdait nos amis. Mais la réalité de Dieu, c'est qu'il est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Alors pour le Seigneur, il est avantageux que nous perdions certaines amitiés selon la chair et que nous les retrouvions plus tard selon l'Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous invite à entrer dans cette mort-là qui consiste à renoncer à la logique du monde et à vivre selon l'Esprit. Et lorsque nous entendons cette réalité, la notion de perte, la notion de la défaite, pour nous, n'aura plus la même signification qu'elle pouvait avoir autrefois dans le monde. Ainsi, nous perdons, mais nous savons que nous perdons parce que derrière, nous allons gagner avec le Seigneur. Mais vouloir conserver sa vie, c'est-à-dire vouloir vivre tel que nous voyons la vie, avec nos propres repères, avec notre propre enseignement, avec notre propre loi, avec nos propres traditions, avec notre propre culture, c'est-à-dire vouloir exister selon nous, en mettant le Seigneur à l'extérieur, le Seigneur dit que si nous agissons ainsi, nous allons perdre notre vie. C'est-à-dire que nous allons perdre le projet de Dieu, mais surtout nous allons perdre la vie éternelle, celle que le Seigneur nous a promise. Souvenons-nous ce qui s'est passé dans Genèse 11. Il y a des hommes qui ont voulu construire une tour, construire une ville. Et ils ont voulu faire un édifice qui monte jusqu'au ciel pour atteindre le trône de Dieu. Ils ont voulu bâtir sans le Seigneur. Et la Bible nous dit que ces hommes ont dit, bâtissons-nous un nom. C'est-à-dire, ils ont voulu exister, se faire une réputation pour ne plus s'identifier à Dieu, mais s'identifier à la propre logique de leur propre vie, de ce qu'eux auront bâti. Et lorsque le Seigneur a vu ça, mais il les a tout simplement confondus. C'est ça, vouloir sauver sa vie. Vouloir sauver sa vie, c'est vouloir exister sans Dieu, vouloir vivre sans Dieu. Et le Seigneur dit que celui qui conservera sa vie, la perdra. On croit pouvoir gagner dans le monde, mais en réalité, on ne gagne rien du tout. La preuve, c'est que tout ce que tu as gagné pendant toute ta vie, le travail que tu as fourni, les diplômes que tu as passés, tout ce qui fait ta gloire aujourd'hui, tout ce qui peut faire ta réputation, parce que tu as été reconnu dans tel milieu comme étant quelqu'un d'élevé, étant quelqu'un d'efficace, tout ce que tu as construit pour que les portes aujourd'hui te soient ouvertes. Mais lorsque tu mourras, tu ne seras pas enterré avec toutes ces choses-là. C'est pour nous montrer, bien aimés, que même ce qu'on croit gagner dans le monde, en réalité, on ne le gagne pas. Parce que le jour où la mort arrive, tout s'arrête. C'est ce qui nous montre, bien aimés, qu'en réalité, nous n'avons rien à gagner. Et surtout, nous n'avons rien à nous. Tout ce que nous pouvons avoir et appeler est à nous. En réalité, ça ne nous appartient pas. La preuve, c'est que lorsque nous mourons, d'autres vont tout simplement les récupérer. Ça montre que nous appartient pas. Et le Seigneur dit que celui qui cherche à conserver cette vie-là, il la perdra. Et les réalités sont devant nous pour nous montrer clairement que vouloir conserver finalement ce qui est futile, vouloir conserver ce qui ne peut pas nous donner la vie éternelle, c'est tout simplement perdre. Donc le monde va nous faire croire que nous sommes gagnants. Mais en réalité, nous ne gagnons rien du tout. Nous gagnons tout simplement une illusion de croire que nous sommes forts. L'illusion de croire que nous sommes intelligents. Le diplôme que tu as passé te fait croire que tu es quelqu'un. Un papier sur lequel on te félicite ou on met des bonnes notes te fait croire que tu es élevé. Mais le jour où la maladie te rattrape, c'est là que ce papier-là n'a plus de valeur, n'a plus de sens. L'intelligence que les hommes t'avaient donnée, ce sont ces mêmes hommes qui te mettent de côté parce que la santé montre que tu n'es plus apte. C'était un diplôme, mais ça fait partie du passé. Ça montre par là, bien aimé, que tout ce que nous pouvons considérer comme acquis, en réalité, nous ne l'avons pas. C'est un temps que nous profitons de certaines choses, mais comme l'homme ne peut pas se rassasier, nous serons toujours éternellement insatisfaits. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui perdra sa vie, celui qui acceptera de renoncer à la logique de cette vie, à la logique du monde et de vivre selon le projet du Seigneur, c'est celui-là qui conservera sa vie. Il vivra éternellement avec Dieu et il se rendra compte. Nous nous rendrons compte que ce que nous avons fait pendant toute notre vie, en consacrant notre temps au Seigneur, en consacrant notre vie à Dieu, nous allons la retrouver plus tard avec le Seigneur. Car tout ce que nous faisons avec le Seigneur ne meurt jamais. Ne meurt jamais. La Bible nous dit que le sacrifice d'Abel parle encore jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, ce que Abel avait accompli pour Dieu, pour plaire à son Dieu, la Bible nous dit qu'aujourd'hui encore, ça agit encore. Donc le Seigneur prend encore plaisir à se souvenir des œuvres que son serviteur Abel avait faites. Ça nous montre par là, bien aimé, que les œuvres des enfants de Dieu, de ceux qui se sont vraiment consacrés à Dieu, ne meurent jamais, mais demeurent éternellement. Acceptons de perdre pour gagner quelque chose de meilleur. Et c'est dans cette logique-là même que le Seigneur fonctionne et qui nous emmène dans Luc chapitre 15. Et nous allons voir l'exemple de Dieu à travers l'exemple, finalement, d'un homme. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, au verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous nous arrêtons là premièrement. L'enfant va dire à son père, donne-moi mon héritage. Nous savons qu'un héritage, nous ne pouvons entrer dedans que lorsque la personne de qui nous devons hériter est morte. Ce qui veut nous dire que le regard que cet enfant avait envers son père était un regard nul, était un regard méchant, dont il considérait son père déjà comme mort. Pour demander son héritage, c'est une manière de dire que « Papa, tu ne comptes plus pour moi ». Donc ça nous montre que certainement, les relations, même si le père devait avoir une attention particulière vis-à-vis de cet enfant, les rapports ou les sentiments n'étaient pas réciproques. L'enfant, lui, avait un autre regard. Peut-être que ça faisait un temps qu'il convoitait déjà cet héritage-là. Il attendait peut-être l'âge pour pouvoir simplement entrer dans cet héritage-là. Il attendait peut-être la mort de son père pour entrer dans cet héritage-là. Et peut-être que pour lui, le temps commençait à paraître long. Le père était peut-être encore en bonne santé physique et se rendait compte que celui-là ne va pas mourir maintenant. Autant réclamer mon héritage maintenant, autant le considérer comme mort maintenant, afin d'entrer dans ma véritable vie, dans mon véritable plan, mon projet, selon moi. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé avec l'homme et Dieu. Dieu ne s'impose dans la vie de personne. Les hommes ont voulu faire leur vie loin de Dieu. Ils ont dit au Seigneur, donne-moi mon héritage. Et tel se prend pour un grand, parce qu'il est astronaute, il a fait de longues études. L'autre se prend pour un grand, parce que c'est un chirurgien, et il a fait de longues études, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. L'autre se fait de l'argent en disant, je suis beau, je suis belle, mannequin top modèle, avec la beauté que Dieu lui a donnée. Chacun réclame son héritage, et se retire de Dieu, pour faire sa propre volonté. Mais la Bible nous dit que, ou ne nous dit pas, ou nous pouvons tout simplement le comprendre. Et le Père leur partagea le bien, son héritage lui donna. C'est-à-dire que le Père n'a pas cherché à résister. Il n'a pas cherché à parlementer avec son fils. Il n'a pas cherché à vouloir convaincre son fils de rester. Quel était l'intérêt de ce Père ? De maintenir son fils dans la maison ? En sachant que son fils n'attend que sa mort, laissant son fils dans un état finalement où le cœur n'était pas propre. Le père n'a pas voulu rester dans la maison avec un enfant finalement qui n'avait pas peut-être de véritable amour pour lui. Lorsqu'on parle de relation entre deux personnes, ça doit être un échange libre. Le sentiment, ce n'est pas quelque chose qui s'impose ou qu'on impose à l'autre. Lorsqu'on parle d'amour, il doit avoir un échange libre. Et c'est ce même amour que le Seigneur a voulu avec les hommes. Il n'a pas voulu garder les hommes lorsqu'il les a créés en faisant d'eux des robots ou des machines, mais il les a créés en leur laissant libres, en leur donnant le choix de l'aimer. Lui, Dieu aime l'homme, mais il veut aussi que l'amour de l'homme envers lui soit un amour libre, un amour réciproque. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que je me tiens à la porte et je frappe. Dieu ne cherche pas à enfoncer la porte, mais il frappe tout simplement. Et il dit que celui qui entend, qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Ça veut dire, bien-aimé, que si tu n'ouvres pas la porte, il n'entrera pas. Parce que Dieu ne veut pas de relation avec l'homme, il ne veut pas une relation forcée, une relation imposée. Beaucoup disent, mais si Dieu est si puissant, si Dieu est bon, mais pourquoi il laisse l'homme faire tout ce qu'il fait? Pourquoi il laisse les guerres? Simplement parce qu'il aime l'homme. Et lorsqu'on aime une personne, on lui laisse le choix. Lorsqu'on aime une personne, on ne lui impose pas d'aimer en retour. Et c'est ce que Dieu fait avec les humains. Il ne s'impose dans la vie de personne, mais il laisse l'humain être libre dans ses choix. Et ce père-là avait compris que mon fils ne m'aime pas peut-être comme moi je l'aime. Il y a peut-être un semblant d'amour qui est là, il y a peut-être un petit sentiment qui est là, mais il ne m'aime pas comme moi je l'aime. Je ne vais pas contester avec lui. Je ne vais pas discuter avec lui. Je lui donne son héritage. Bien que cela me revienne, bien que cela m'appartienne, je lui donne son héritage. Parce que je ne veux pas qu'il reste dans ma maison avec un mauvais cœur. Je ne veux pas qu'il reste dans ma maison avec des mauvaises intentions. Il y a quelquefois, bien aimé, des amitiés que nous avons, des amitiés que nous conservons, des amitiés que nous refusons de lâcher. Alors que ce sont des amitiés quelquefois forcées. tu es ami avec une personne, mais tu vois bien que cette amitié n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère parce que toi, tu aimes la vérité. Et cette personne passe le temps à murmurer, passe le temps à critiquer et d'avoir des mauvaises paroles. Tu n'as pas le courage de la reprendre. Tu n'as pas le courage de lui dire « arrête ». Tu n'as pas le courage de dire « tu parles mal ». Tu n'as pas le courage de lui dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Et en conservant cette amitié-là, tu conserves une relation qui est pourrie. Une relation qui n'est pas bonne. Et le père ne voulait pas de relation pourrie avec son fils. Il a accepté de se séparer afin de ne pas être une pierre d'achoppement. Il y a des personnes, quelquefois, à qui il faut, quelquefois, obligé de faire un choix. Obligé de choisir un camp. Il y a des personnes qui peuvent être partagées entre toi et partagées entre quelqu'un d'autre. Alors, quand il est avec toi, il critique l'autre. Quand il est avec l'autre, il te critique. Tu sais toutes ces choses-là. Tu vois que la relation n'est pas bonne en réalité. Accepte de perdre ça. Parce que lorsque la personne vient auprès de toi et a une mauvaise attitude, en réalité, c'est contre Dieu qu'elle pêche cette personne. Alors, pour éviter à cette personne-là d'être désagréable à Dieu, accepte de perdre pour que cette personne choisisse son camp, mais qu'au moins qu'elle ne soit plus partagée. Et le père ne voulait pas que son fils soit partagé entre l'extérieur et lui, entre le monde et lui. Il a accepté de perdre son fils. Il a accepté de renoncer à son fils en lui donnant l'héritage. Va et fais ta vie. Ça ne sert à rien d'être dans la maison et d'être désagréable à Dieu, d'avoir des mauvais sentiments et des mauvais désirs dans ton cœur. Et Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de l'hypocrisie entre lui et les humains. Dieu ne veut pas faire semblant parce que Dieu veut sauver. Alors il préfère laisser l'homme être libre. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui va être constamment dans la réflexion, constamment dérangé. Quand on a des choix à faire, je donne l'exemple sur un emploi. On te propose deux emplois, tu ne sais pas où aller. Ça te fait réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je vais ou je ne vais pas? Je fais ou je ne fais pas? Tant que le choix n'est pas décidé, la paix n'est pas là. Tu es dans la réflexion. Quelques-uns sont dans les soucis, d'autres dans la dépression. Parce qu'il faut choisir, mais ils ne savent pas où. Mais une fois que le choix est fait, tu es totalement libéré. Parce que le choix est fait. Et c'est ce que le Seigneur veut pour l'homme. Il ne veut pas que l'homme soit dans la confusion. Il ne veut pas que l'homme soit dans le partage, parce que Dieu, lui, ne se partage pas. Alors, il préférait laisser l'homme libre. Gère ta vie comme tu veux. Fais de ton corps ce que tu veux. Fais de ton intelligence ce que tu veux. Je vous ai donné l'intelligence. Vous créez des âmes, entretuez-vous. Et après, on dira, si Dieu existe, pourquoi les guerres? Mais est-ce que c'est Dieu qui fait les guerres? Si Dieu existe, pourquoi telle chose? Est-ce que c'est Dieu qui va combattre pour le pétrole? Est-ce que c'est Dieu qui va coloniser des pays pour le pétrole? Est-ce que c'est Dieu qui incite les gens à tuer? Est-ce que vous avez vu Dieu descendre avec une arme et faire la guerre? L'homme prend son intelligence et a fait ce qu'il a voulu faire. Et puisque Dieu est amour, il a laissé l'homme libre dans ses choix. Et il fallait que le père en arrive là, avec son fils, pour qu'il aille jusqu'au bout. Prends ton héritage. Au verset 13, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce jeune homme-là qui s'écrit fort, qui s'est cru intelligent, qui pensait connaître la vie mieux que son père. Et c'est une réalité, bien-aimée, que nous voyons aujourd'hui, où les jeunes pensent être plus intelligents que leurs parents. Les jeunes dans l'âge pensent être plus intelligents que les aînés dans l'âge. La Bible nous dit, ne déplace pas les bornes que les anciens ont placées. Ne déplace pas les limites que ceux qui sont venus avant toi ont placées. Ils savent pourquoi ils ont placé ces limites-là. Et ce jeune homme-là s'est cru plus intelligent que son père. À vouloir gérer sa vie comme il le voulait. À ne pas tenir compte des conseils des aînés. À gérer sa vie sans tenir compte de ceux qui ont vécu avant lui, qui ont plus d'expérience que lui. Donne-moi mon argent. Et on lui a donné son argent. Il est parti faire la vie selon ce que lui pensait être bon. selon ce que lui pensait être juste. Donc certainement que lorsqu'il était chez lui, il se sentait tellement enfermé, donc il s'imaginait déjà la vie extérieure. Donc en sortant de là, il s'est dit, à moi la vie maintenant. J'y vais. À fond la vie. Il y a ceux qui nient le Seigneur dès le commencement. Mais il y a ceux aussi qui ont accepté le Seigneur. Et venant au Seigneur, ils ont le sentiment que la vie chrétienne est ennuyeuse. Parce que leur amour pour Dieu en réalité n'est pas total. Alors ils retournent dans le monde. Pendant qu'ils étaient dans l'église, ils enviaient les païens. Ils avaient le sentiment que les païens s'amusaient plus. Ils avaient le sentiment que la vraie vie était dehors. Puisque Dieu ne retient personne, il a dit va. Et là on entend ceux qui sont autour. Ah, les gens ont quitté l'église, le pasteur n'a rien dit. Oh, il a laissé partir, comment? Mais même si Dieu ne retient pas les personnes bien-aimées, est-ce que c'est un homme qui va retenir un autre homme? Lorsque le Jésus-Christ a dit que celui qui ne mange pas ma chair ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Plus de 70 ont quitté Jésus. Les gens qui étaient là pouvaient dire aussi, mais Jésus, pourquoi tu les laisses partir? Jésus ne leur a même pas laissé le temps. C'est lui-même qui a posé la question aux autres, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Mais ils sont partis, tu ne les as pas retenus. Ils sont partis, tu les as laissés partir. C'est mieux de perdre que les gens entrent véritablement dans leur identité que de vouloir retenir de force les gens et de les maintenir dans un état d'hypocrisie, dans un état où en réalité ils ne t'aiment pas, dans un état où en réalité ils envient, facilitant la tâche, acceptant de perdre. Ils sont partis faire la vie et beaucoup aujourd'hui dans le monde pleurent. Ils pensaient que ça aurait été plus facile. Ils pensaient qu'ils seraient beaucoup plus libres. Mais c'est la débauche. Rien ne va dans leur vie parce qu'ils se sont éloignés tout simplement du Seigneur. Mais il fallait que le papa accepte de laisser son fils aller. Tant que le fils n'était pas confronté à cet échec-là, toute sa vie, il aurait eu le sentiment que son père l'avait enfermé, que son père l'avait serré, que son père l'avait privé de sa vie. Il fallait qu'il aille. Il y a des enfants, quand ils ne touchent pas, l'enfant a le sentiment que papa l'embête. Moi, j'ai envie de jouer avec le couteau, papa ne veut pas que je joue, c'est mon jouet. Ne touche pas. Ne touche pas, ça c'est chaud. L'enfant pleure, il a vraiment le sentiment que son papa est méchant, maman est méchante, on m'embête. Mais le jour où il va toucher pour de vrai, comme c'est déjà arrivé, arrête une fois, arrête deux fois. Et à un moment donné, il touche, il se brûle. Le fait qu'il se brûle là, il s'en souviendra. Peut-être qu'il se brûle là, c'est moins grave. Mais en permettant cette petite brûlure, on lui évite une grande brûlure par la suite. Parce que ça va lui servir d'enseignement. Et cet homme-là, ce jeune homme-là qui s'est éloigné, qui est parti faire sa vie, a connu c'était quoi la vie selon le monde. Et il va réaliser, nous lisons verset 14. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré dans lui-même, il dit. Il va devenir pauvre, à tel point qu'il va convoiter ce que même les cochons mangent. Et au moment où il est dépourvu de tout, où il est dépouillé de tout, bien-aimé, il n'a pas tout de suite le réflexe de se dire « je vais rentrer chez mon père ». Il voit qu'il n'a rien. Il dit encore « je vais aller me mettre au service des hommes. Je vais encore aller chercher du secours chez les hommes. » Regardez les hommes comment ils vivent. Ça fait des années que l'ONU existe. Est-ce qu'il y a la paix? La paix n'est pas. Certains d'entre nous, depuis que nous sommes nés, on entend toujours des guerres et des bruits de guerre. Mais ces organisations-là existaient déjà. Il y a combien de prisons en France? Il n'y a pas assez de place. On continue d'emprisonner les gens. Dans certains pays, lorsque tu voles, on te coupe la main. Si on te coupe la main, tu ne peux plus travailler. Mais ce n'est pas pour autant que les gens arrêtent de voler et on continue toujours de couper les mains. Non, on voit clairement que tout ce que l'homme essaie de faire, pour s'en sortir, il n'y arrive pas. Et il continue à lutter en créant des réunions, en mettant des nouvelles lois pour essayer de corriger l'homme. Il refuse d'accepter qu'il a échoué. Le cœur de l'homme est trop mauvais, on n'arrive pas à le soigner. Le seul remède qu'on a quelquefois, c'est de le remplir de médicaments. Il dort toute la journée comme ça, il n'embête plus personne. C'est comme ça que les hôpitaux psychiatriques sont remplis. C'est le seul moyen véritable qu'ils ont trouvé pour endormir l'homme. On construit des prisons et ça ne finit pas. Le code de la route, les feux rouges, les accidents continuent. Limitation de vitesse, les gens continuent à mourir. Et l'homme refuse de reconnaître son échec et de revenir à Dieu. On va créer encore d'autres organisations. On va créer encore d'autres lois pour essayer de corriger ce qu'on avait essayé de corriger autrefois. On essaie toutes sortes de méthodes. Il y a même certains médicaments quand tu es malade, on te donne des médicaments pour soigner. Mais comme on sait que ce médicament-là a un effet secondaire dans ton estomac, on te donne encore un autre médicament pour régler le problème du médicament. Donc ça manque, on n'a pas trouvé la solution. On fait du bricolage. Et malgré tout, l'homme refuse de s'humilier et de dire « Seigneur, viens ». On cherche d'autres solutions auprès des humains. On fait venir telle et telle personne de gauche à droite. Ah, on a appris aux États-Unis, lui il est fort, il va pouvoir nous aider. Ah, en Russie, lui il est fort, il va pouvoir nous aider. Ah non, en Chine. Et le problème est toujours le même. Et beaucoup qui ont quitté aussi la vie de l'Église sont dans la même situation. Ils se rendent compte que leur vie est un échec. Au lieu de se dire tout simplement, bon, je vais me repentir, repartir dans l'Église. Ils résistent. Ils veulent créer leur propre église. Ils veulent créer leur propre groupe. Alors qu'ils sont incapables eux-mêmes de gérer leur propre vie. Ils veulent gérer la vie des autres. Au lieu de s'humilier, comme ce jeune homme-là, il n'avait plus rien à manger. Et la Bible dit, il va se mettre au service des gens. Bien-aimé, l'évidence était là. Pendant qu'il perdait tout, il savait que son père avait tout à la maison. Il savait que son père avait toute la richesse. Mais cette réalité-là ne l'a pas convaincu pour revenir. Les choses apparentes ne peuvent pas suffire pour convaincre quelqu'un. Lorsque tu parles à ton enfant, tu as dit tout ce que tu pouvais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argument pour le convaincre. Comprends bien aimé qu'il n'y a plus que l'intervention de Dieu qui compte maintenant. Il n'y a plus que la puissance du Saint-Esprit qui puisse agir. Lorsque l'évidence a été manifestée et que cette évidence-là, les gens n'en veulent pas, alors comprenons que nous n'avons plus qu'une seule arme. C'est simplement la prière. Et voilà qu'il nous dit au verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. » Étant entré en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a eu une action intérieure. Ce que ses yeux voyaient ne suffisait pas pour le convaincre. Il fallait une action au-dedans de son cœur pour que la repentance soit véritable, pour que la repentance soit sincère. Et cette action qui emmène un homme à rentrer au-dedans de lui et à se poser les véritables questions, à s'humilier pour se poser ces questions-là, il n'y a que l'intervention de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 16, 8 que le Saint-Esprit, le Consolateur, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Il faut l'action du Saint-Esprit pour convaincre, parce que l'évidence ne suffisait pas. Il est entré dans lui-même. Il a regardé au plus profond de sa conscience. Et là, il s'est posé des questions. Il y a un moment donné, lorsque nous étions si loin de Dieu, même si on voyait autour de nous des chrétiens être heureux, on voyait des gens marcher avec le Seigneur, être dans la paix. Le fait de voir tous ces gens-là, ce n'est pas ça forcément qui avait un véritable impact dans notre vie. Mais il a fallu un moment donné qu'on se pose les bonnes questions, qu'on s'assoie en face du Seigneur, qu'on fasse notre propre examen, qu'on se pose les questions. La vie que j'ai aujourd'hui rime à quoi finalement? Ce que je fais aujourd'hui rime à quoi? j'ai fait tant de choses sans Dieu, quel est le résultat? Même si j'ai bâti, même si j'ai de la richesse, mais finalement tout ça, ça ira où? Tout ça, ça ira où? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Peut-être que tu as même au-delà de ce que tu aurais besoin. Il y a des gens aujourd'hui, ils pourraient s'arrêter de travailler aujourd'hui et continuer à vivre toute leur vie dans l'abondance. Mais pourquoi parmi ces gens-là, certains se suicident? Pourquoi parmi certaines de ces personnes-là, ils prennent de la drogue? Si toutes ces choses-là suffisaient, pour que cet examen soit fait, il faut qu'à un moment donné, l'homme s'humilie. Et c'est cette humilité-là, lorsque le Saint-Esprit la trouve chez l'homme, qui emmène l'homme à se poser les vraies questions. Les questions essentielles à la vie. Qu'est-ce que vaut la vie? J'ai le témoignage autour de moi. Des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, qui finissent par se suicider. Des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, mais qui n'ont même pas l'appétit pour manger. Des gens avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, qui vivent leur vie chaque jour, comme bon leur semble, mais qui n'ont pas la paix, qui sont constamment dans la colère et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, qui sont esclaves de l'alcool, ils n'arrivent pas à s'en sortir, esclaves du tabac, ils n'arrivent pas à s'en sortir, esclaves de leur orgueil, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi vouloir vivre comme eux? Lorsqu'on s'humilie, le Saint-Esprit nous convainc et nous emmène à nous poser les bonnes questions. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme-là. Étant entré en lui-même, tout ce qui était visible n'avait pas suffi. Il fallait une action forte de Dieu, une action forte du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous avons tout montré, lorsque nous avons fait humainement parlant ce que nous pouvons faire pour changer les gens, acceptons nos limites. Acceptons nos limites. Mais pour accepter cette limite-là, il faut accepter de perdre pour un temps. Accepter de perdre ce que nous conservons. Accepter d'être considéré comme dans la défaite à ce moment-là. Même si c'est dur, mais ce que nous voulons, c'est construire. Et la logique de construction, selon Dieu, marche avec la réalité que nous devons accepter de perdre notre vie. Ce papa-là, en voyant son fils partir, ça devait certainement le déchirer le cœur. Ça devait faire mal. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Mais on peut témoigner, si ça nous arrive quelquefois, d'être éloignés loin de nos enfants, le manque qu'il peut y avoir dans le cœur. Mais là, de savoir que ton fils part parce qu'il ne t'aime pas vraiment. Il part sans savoir quand est-ce que tu le reverras. Quel déchirement ça devait faire dans le cœur de ce père-là. Mais il fallait cela. Il fallait cela pour que son fils revienne à son bon sens. Et lorsqu'il revient à son bon sens, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Il n'était pas mort simplement quand il convoitait la nourriture des cochons. Il était mort bien que dans la présence de son père. Il paraissait pour être vivant, mais il était mort au-dedans de lui parce que les sentiments qui étaient au-dedans de lui étaient des mauvais sentiments. Ce n'étaient pas des sentiments qui étaient approuvés par Dieu. Ce n'étaient pas des sentiments qui allaient aider à construire. C'était des mauvais sentiments. Et le Père ne voulait pas d'un mort chez lui. Il a préféré que le mort quitte. Et qu'à travers les échecs de la vie, il revienne maintenant vivant. Celui qui accepte de perdre sa vie, celui qui accepte de mourir, c'est celui-là qui vivra. Le Père a accepté de mourir un temps. Ça devait créer aussi une mort chez lui. Mais c'était surtout afin que son fils soit transformé. Et c'est ce que Dieu a fait avec les humains. Il a laissé les hommes être libres afin que, voyant leurs échecs, tels que nous tous ici, comme je l'ai dit, si nous sommes venus au Seigneur, c'est parce que nous avons réalisé nos échecs. Nous avons réalisé que loin de Dieu, c'était la mort. On était mort. Et en revenant à Jésus, étant entré en nous-mêmes, convaincu par le Saint-Esprit, nous avons réalisé que la vie loin de Dieu, en réalité, ne valait rien. Nous avons réalisé que nous n'étions rien. Et nous sommes désormais revenus au Seigneur. Et nous sommes donc revenus à la vie. Morts que nous étions. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a accepté de nous perdre un temps. Parce qu'il ne voulait rien imposer. Mais ce temps-là où il nous a perdus, c'est un temps où les réalités de la vie nous ont rattrapés et nous ont ramenés à reconnaître nos erreurs et à revenir au Seigneur en tant que vivants. Bien-aimés, acceptons de perdre. Arrêtons de conserver des amitiés qui ne glorifient pas le Seigneur. Arrêtons de conserver des liens charnels qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur a dit, je suis venu apporter l'épée, pas la paix. Il y aura la division. Mais cette division, à cause de la vérité, nous devons l'accepter. Même si nous allons paraître comme perdants, abandonnés de tous. Mais toutes ces personnes que nous perdons aujourd'hui, nous les retrouverons plus tard pour la vie. Et de loin, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mieux vaut perdre une amitié charnelle et de retrouver un frère dans le ciel, une sœur dans le ciel, que de vouloir vivre des amitiés sur la terre, des amitiés finalement qui nous tirent vers le bas, qui ne nous font pas évoluer, des amitiés finalement qui ne construisent pas, et des amitiés surtout qui ferment la porte au ciel aux autres. Si le Père avait maintenu son fils dans cet état-là, jamais ce fils-là un jour n'aurait fait l'examen dans sa propre conscience. Il a accepté de perdre. Ainsi, lorsque nous retenons certaines choses que Dieu nous demande de nous détacher, certaines amitiés, certaines relations, en réalité, en maintenant ces choses-là, c'est comme si nous fermons le ciel à toutes ces personnes. Parce que nous savons que la personne est partagée. Évitons à la personne d'être dans une attitude qui va déplaire à Dieu. Acceptons de perdre. Laissons les gens faire leur vie. Dans leur échec, on les aidera pour plus tard. Il y a des personnes, mieux vaut qu'elles se trompent maintenant, dans ce que nous pouvons considérer comme petit. Même si il y aura comme une perte de temps, mais c'est un enseignement qui va les servir pour plus tard. Ce fils-là ayant retrouvé son père, ayant vu l'amour de son père qui l'attendait, comme Dieu attend chaque être humain, comme Dieu nous attendait, et bien que nous sommes revenus à lui avec des sacs à dos ou des valises chargées de péché, le Seigneur nous a accueillis les bras grands ouverts. Il n'a pas regardé à tout ça. Il n'a pas regardé à tout ça parce qu'il nous aimait. Et c'est comme ça que Dieu attend les humains, qu'ils reviennent tout simplement à lui. Acceptons, bien-aimés. Et ce jeune homme-là, l'échec de cette vie qu'il a eu pendant un temps, certainement allait lui être utile pour la suite de sa vie. Toute sa vie, il allait être marqué par cet événement-là. Et il allait savoir désormais comment gérer sa propre vie, comment gérer la richesse, comment gérer tout ce que son père aurait mis à sa disposition. Il allait savoir, bien-aimé. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître difficiles aujourd'hui. C'est une réalité. Mais acceptons de perdre pour gagner plus tard. L'être humain dans sa chair veut gagner tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Tout ce qu'il fait là, il faut qu'il récolte aussitôt. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, on doit accepter de perdre. avec l'assurance qu'on retrouvera plus tard. Parce que Dieu n'échoue jamais. Je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Je connais ces plans. Un plan de paix et de bonheur, avec un avenir, avec de l'espérance. Ce n'est pas un plan de malheur, non. C'est un plan de bonheur que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et comme nous le disons souvent, comme je le dis aussi, et comme Dieu le dit surtout, voici je me tiens à la porte et je frappe. Avec le Seigneur, tout est une question de choix. C'est à nous de faire le choix d'accepter de perdre, d'accepter d'être séparés, d'accepter d'être divisés à cause de la vérité. Et la Bible nous dit, c'est de cette manière-là que nous retrouverons notre vie après. Nous retrouverons notre vie après. Il y a un verset qui dit, « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. » Le pain, c'est ce qui est essentiel à la vie. Le pain, c'est ce qui est essentiel à la vie, c'est ce qui nous fait vivre finalement. Et Dieu dit, « Jette ça. » C'est-à-dire, considère-le comme perdu. Mais avec le temps, tu le retrouveras. Et évidemment que si nous regardons cela avec la logique humaine, on se dira, le pain sera perdu. Mais avec la logique de Dieu, c'est qu'à la fin, on le retrouvera, on sera gagnant. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Éternel grand Dieu, nous nous humilions devant toi encore ce matin, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que si nous avons accepté de mourir pour certaines choses, il y a encore d'autres choses, Seigneur de gloire, pour lesquelles nous avons du mal, Seigneur. Seigneur de gloire, même des fois dans des discussions, dans des débats que nous pouvons avoir, Seigneur, nous n'aimons pas perdre, Seigneur. Et cela ne construit rien, parce que nous marchons selon la logique de la chair. Mais voici ce matin, Seigneur de gloire, tu nous invites, Seigneur, à entrer et à vivre dans la logique selon l'Esprit. Et nous avons compris, Seigneur Dieu de gloire, que perdre selon toi, Seigneur, ce n'est pas une défaite, Seigneur. Ce n'est pas un échec, au contraire, c'est par ce moyen que tu prépares la victoire. Oui, Seigneur Dieu de gloire, pour un temps, Seigneur de gloire, tu avais aussi accepté de nous perdre, Seigneur, à cause de notre orgueil. Tu n'as pas voulu faire de nous des enfants gâtés, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as laissés dans notre vie passée, Seigneur de gloire, qui ne glorifiait pas ton nom, afin de nous retrouver aujourd'hui, Seigneur de gloire, vivants. Nous appelons tes enfants, tes serviteurs. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous révèles, Seigneur de gloire, toutes les choses auxquelles nous sommes attachés et que nous avons peur de perdre. Seigneur, mets toutes ces choses devant nos yeux. Montre-nous clairement, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous refusons de perdre, Seigneur, et qui en réalité, Seigneur de gloire, ne contribue pas non plus, Seigneur de gloire, à nous faire vivre tes projets. Seigneur, révèle-nous toutes ces choses, même si en partie, nous le savons et nous connaissons, Seigneur, toutes ces choses en réalité que tu nous demandes de renoncer, Seigneur. Nous connaissons ces choses, Seigneur de gloire. Alors, Seigneur de gloire, comme ce Fils, Seigneur Dieu de gloire, il est entré en lui-même. Et tu l'as convaincu, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi être convaincus ce matin. Regarde au-dedans de nous, Seigneur de gloire, tout ce que notre chair retient et que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur de gloire, vienne nous libérer, Seigneur, et nous donner la force, Seigneur de gloire, de renoncer, Seigneur, à tout ce qui nous éloigne de toi, à tout ce que, Seigneur de gloire, qui forme un obstacle, Seigneur, pour les projets que tu as pour nous. Que ton Esprit Saint agisse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu de gloire, libère-nous de notre vie passée. Libère-nous, Seigneur de gloire, de tout ce que nous transportons comme des fardeaux, Seigneur. Libère-nous, Seigneur Dieu de gloire, de toute forme d'amitié, de relation, Seigneur Dieu de gloire, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, même dans l'éducation de nos enfants, Seigneur Dieu de gloire, montre-nous, Seigneur de gloire, tout ce que nous faisons de façon charnelle, Seigneur, afin de nous apprendre à céder. Oui, Seigneur Dieu de gloire, que des fleuves d'eau vive, Seigneur de gloire, coule en nous, Seigneur, afin de nous donner la force de renoncer à tout ce qui ne te glorifie pas. Car sans toi, Seigneur de gloire, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons essayé par nos propres efforts, à maintes reprises. Seigneur, ça a été des échecs. Nous avons essayé, Seigneur de gloire, par le conseil des humains. Ça a été un échec. Seigneur, nous voulons désormais l'expérimenter par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, afin de nous rendre libres, Seigneur. Dans le nom de Jésus, libres de nous-mêmes, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous à accepter la mort par rapport à la vie de ce monde, Seigneur. Et à vivre véritablement selon la logique de la Bible. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur.